France Inter. Le 7-9.
7h50, votre invité Léa Salamé est philosophe.
Bonjour Bernard Henri Lévy.
Bonjour.
Vous avez publié hier une longue tribune dans le journal du dimanche. Son titre, qui a trahi le peuple kurde? Réponse:
l'Occident, les démocraties.
Qui précisément l'Occident, ça veut rien dire aujourd'hui, non?
Les États-Unis d'Amérique, qui se sont servis des Peshmerga, qui se sont servis des Kurdes pour battre Daesh et qui, une fois Daesh battu, les a laissés tomber. C'est une histoire d'une tristesse infinie.
Les États-Unis d'Amérique, mais est-ce que c'est les États-Unis d'Amérique seulement? La France, quel rôle elle joue là-dedans?
La France, je crois qu'elle se retrouve aujourd'hui dans la même situation que au moment de l'attaque au gaz sarin en Syrie, c'est-à-dire seule. Je pense que la France, pour des tas de raisons, tradition historique d'amitié avec les Kurdes, la voix de la France, la puissance morale de la France, a tenté d'organiser une médiation entre les Irakiens et les Kurdes, a tenté d'empêcher les affrontements, sauf qu'elle s'est retrouvée seule. Exactement comme autrefois, il y a quelques années, quand Obama avait lâché en rase campagne Hollande au moment où les avions français étaient prêts à décoller pour punir Bachar el-Assad. Mmh. On est dans la même situation, d'une manière inexplicable. C'est même ahurissant. Les États-Unis d'Amérique, au moment même où ils déclaraient que les Pasdaran, les gardiens de la Révolution, étaient une organisation terroriste, les ont laissés agir, se battre, chasser les Kurdes de Kirkuk. C'est ahurissant.
Pourquoi on lâche les Kurdes? Au fond, les Kurdes, c'est le peuple de cette région qui a toujours choisi l'Occident et finalement que l'Occident a toujours un peu trahi, non?
C'est le peuple qui a toujours choisi l'Occident. C'est surtout le peuple qui a toujours choisi la démocratie. C'est le peuple dans la région qui choisit l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est le peuple dans l'armée duquel vous trouvez des combattantes féminines. C'est le peuple dans la région qui choisit un islam des Lumières, un islam compatible avec les droits de l'homme. C'est le peuple qui, encore une fois, s'est battu pour nous, qui a fait rempart. En 2014, quand Daesh a déferlé, quand le raz-de-marée Daesh a menacé de déferler et que tout le monde était tétanisé, les seuls à avoir fait front, les seuls à s'être battus, les seuls à avoir érigé un rempart de terre et de leur corps, c'est les Kurdes. Et en effet, on les trahit. Vous savez, dans l'histoire, il y a de la modernité et avant, il y a des peuples en trop. C'est comme ça. Des peuples dont, en trop, je le déplore évidemment, des peuples dont les grandes puissances, dont les chancelleries, dont les garants de l'ordre du monde pensent que c'est des trublions, qu'ils dérangent l'ordre du monde. Le peuple kurde, c'est aujourd'hui l'un de ces nouveaux peuples en trop, comme les Arméniens autrefois, comme les Juifs à un certain moment, comme d'autres, comme les Rohingyas aujourd'hui. Les Kurdes, c'est pour les chancelleries un peuple en trop et c'est plus que désolant.
Alors, vous prenez la parole aujourd'hui, vous poussez ce cri d'alarme parce que parce que les Kurdes d'Irak ont organisé le 25 septembre dernier un référendum sur leur indépendance. Un référendum qui a immédiatement suscité une réplique violente de Bagdad. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'en pleine lutte contre Daesh, alors que la région déjà compliquée n'a jamais été aussi instable, aussi chaotique, est-ce que c'était vraiment le moment pour les Kurdes de déclarer leur indépendance?
Ils n'ont pas déclaré leur indépendance.
De voter pour leur indépendance.
Ils ont conçu... C'est un droit démocratique élémentaire. Ce référendum a été un référendum exemplaire. Ça a été une consultation populaire. On a demandé aux Kurdes, après 100 ans de lutte, après 100 ans de souffrance...
Mais est-ce que c'était le moment, là, maintenant?
Mais c'est jamais le moment, à ce compte-là. Vous savez, dans la vieille mentalité néocoloniale, qui considère que les peuples sont des enfants, c'est jamais le moment. C'était pas le moment hier, serait pas été le moment
demain.
Mais
est-ce que c'est pas l'ouverture aussi? Si vous dites, moralement, ils ont le droit à leur indépendance, est-ce que ça veut pas dire accepter d'ouvrir la boîte de Pandore? C'est-à-dire, après l'Irak, ils voudront leur indépendance en Syrie, puis en Turquie, ça veut dire des guerres sans fin?
D'abord, je ne crois pas qu'il y ait boîte de Pandore, je ne crois pas qu'il y ait effet domino, je crois qu'il y a là... L'Irak, vous savez, l'Irak est un faux... Les gens qui parlent de l'unité de l'Irak...
Dont Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a répondu « unité de l'Irak ».
Emmanuel Macron a dit deux choses. Il a dit « unité de l'Irak » et il a dit « droit du peuple kurde ».
Oui, il dit souvent « et en même temps », mais il dit aussi...
Eh bien, il dit « en même temps », oui, oui. Unité de l'Irak, c'est une farce. Il n'y a jamais eu d'unité de l'Irak. Vous savez, j'étais sur le terrain pendant la bataille de Mossoul. J'ai accompagné les Peshmerga, les Kurdes, et j'ai accompagné des Irakiens qui étaient au combat contre Daesh. Je n'ai jamais rencontré un Irakien me disant « je suis fier d'être Irakien ». Ça ne veut rien dire. L'Irak, c'est une création coloniale, des puissances coloniales du début du XXe siècle, de la Grande-Bretagne. C'est un faux État, avec un faux fédéralisme, avec des institutions non démocratiques. Donc, aujourd'hui,
Emmanuel Macron a tort de parler d'unité de l'Irak qu'il faut préserver.
Je pense que la communauté internationale, en s'abritant, en mettant en avant cette idée de l'unité de ce pays fictif qu'est l'Irak, a donné par avance une espèce de permis d'intervenir et de permis de cogner aux forces irakiennes, c'est-à-dire aux Iraniens. Puisque n'oubliez pas que ceux qui étaient à la manœuvre et qui sont aujourd'hui à la manœuvre encore, ce sont les Iraniens.
On va en parler dans une seconde, mais Nicolas Hénin, journaliste spécialiste de la région, ex-otage de Daesh, a réagi à votre tribune d'hier. Il vous reproche d'être manichéen, Bernard Lévy, de tout voir en tout blanc ou tout noir. Les Kurdes sont gentils, les Iraniens sont méchants. Il dit c'est pas bien de voir le monde, et notamment cette partie du monde comme ça. Le Moyen-Orient crève parce que chacun choisit ses victimes et ses bourreaux.
Non, je choisis évidemment pas. Vous savez, Dieu sait qu'il y a des victimes en Irak. Cet État irakien qui est en proie à une guerre civile terrible depuis la guerre idiote des Américains, bien sûr que c'est un pays martyr, c'est un pays où il y a des victimes tous les jours, des attentats à la voiture piégée, c'est un crève-cœur aussi. La seule chose que je dis, c'est que les Kurdes, même si c'est pas des anges, leur désir de démocratie, leur pratique de la laïcité serait un facteur de stabilité dans cette région.
Mais vous comprenez bien aussi qu'après l'exemple de l'Irak en 2003 et de la Libye, les capitales occidentales, que ce soit Washington, Paris ou d'autres, soient échaudées quand on leur parle d'ingérence, quand on leur parle d'aider un peuple.
Mais personne ne leur parle. Pour l'instant, il y a une ingérence, c'est l'Iran. L'Iran, c'est-à-dire les gardiens de la révolution, c'est-à-dire la brigade Al-Quds du général Qassem Soleimani. C'est ça l'ingérence. On l'a vu sur les images. C'est l'ingérence des bataillons iraniens à l'intérieur de l'Irak pour chasser 100 000 Kurdes de Kirkouk. Voilà l'ingérence. On parle de rien d'autre. Qu'est-ce qu'a dit le président Macron le jeudi ou vendredi 22 septembre à son arrivée de New York? Il a appelé le président Barzani et il a appelé le premier ministre Abadi. Il leur a dit « parlez ». Un peuple s'est exprimé démocratiquement, va s'exprimer dans deux jours. Parlez, ne faites pas donner les armes, dialoguez.
Oui. C'est ça. Et en même temps, Emmanuel Macron envisage de se rendre en Iran, ce qui serait une première depuis 1976. C'est une bonne chose qu'il aille en Iran?
Ça dépend ce qu'il y dira. S'il va en Iran pour leur dire « bas les pattes au Kurdistan », s'il va aux Iraniens pour leur dire « on n'envoie pas les gardiens de la révolution assassiner les droits de l'homme en Irak et au Kurdistan », c'est bien. Je ne sais pas ce qu'il dira. On verra. Il n'y a pas de date d'ailleurs à arrêter, à ma connaissance.
Au Moyen-Orient, vous êtes pour les Kurdes. En revanche, en Espagne, vous n'êtes pas du côté des Catalans. Vous le dites clairement dans cette tribune-là. Alors, les Kurdes ont droit à leur indépendance, pas les Catalans. Mais c'est pas contradictoire ?
Non, c'est pas la même chose. Les Kurdes, ils se séparent d'un faux État autoritaire et génocidaire. L'Irak, c'est quand même Saddam Hussein, l'opération Anfal, des massacres sans nombre. L'Espagne, c'est pas un État génocidaire, c'est une démocratie, et je ne sache pas que les droits des Catalans, droits humains et droits à l'autonomie, aient été bafoués systématiquement par l'Espagne. Donc ce qui est scandaleux, c'est pas que je sois pour ou contre, c'est ce parallèle qu'on a fait entre le référendum des Catalans et le référendum des Kurdes. Ça, c'est le genre de fausse symétrie que font les faux experts et que font les chancelleries et qui nous permet de ne rien faire et de laisser un petit peuple vaillant qui nous a défendus se faire massacrer. Moi, c'est ça qui me scandalise. C'est pas la question du référendum ou pas en Catalogne.
Dernière question, Bernard Lévy, rien à voir. Vous connaissez Harvey Weinstein, le producteur américain. Est-ce que vous avez été surpris par ce flot d'accusations qu'il touche ?
Non, d'abord je le connais à peine et je n'ai pas été...
Vous le saviez ?
Non, bien sûr que non. Je l'ai rencontré une fois à l'époque où il s'était intéressé au droit d'un de mes documentaires de guerre, le Serment de Tobrouk. Donc je ne savais rien de tout ça, bien sûr que non.
Vous n'êtes pas surpris ? Que ça se passe comme ça, que la parole explose, que...
Je ne sais pas si je suis surpris ou pas. Je pense, un, que c'est bien qu'on commence à considérer que le harcèlement est un délit, et que c'est un délit grave, et que les femmes n'en peuvent plus. Ça, c'est bien. Ce que j'aime pas, c'est quand on traite un homme de porc. Ça, j'aime pas ça. Un homme, aussi criminel soit-il, c'est pas un porc. Vous savez, Jean-Paul Sartre, préface aux damnés de la terre de Frantz Fanon, on ne traite jamais un homme, fût-il un criminel, comme un animal.
Bernard-Henri Lévy était notre invité. Belle journée à vous. Merci.
Et merci à vous, Léa. On vous retrouve évidemment avec l'invité de France Inter tout à l'heure, après la revue de presse à 8h30.